Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Simpon. Alors tout d'abord, permettez-moi de saluer les auditeurs qui nous écoutent de l'étranger, puisque grâce au site lespoètes.toutattaché.site, nous savons que nous avons des auditeurs un peu partout dans le monde entier. Et c'est merveilleux, cette technologie nouvelle. Voilà. Alors, ce soir, je vais vous parler d'abord de livres qui ne sont pas des livres de poésie. Et puis, je vous parlerai d'une véritable révélation de la poésie contemporaine et même, je dirais, beaucoup plus de la littérature de notre 21e siècle, une véritable révélation à mon sens. D'abord, je voudrais évoquer une figure qui a été une figure qui m'a beaucoup marqué dans les années 60 et les années 70, qui est la figure de Maurice Genevoix, qui était à l'époque secrétaire perpétuel de l'Académie française. Maurice Genevoix, que je lisais, parce que fait partie de cette génération qui a été marquée par les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, mais également par les récits de la Première Guerre mondiale, parce qu'il se trouve que mon grand-père, comme beaucoup de gens de ma génération, avait participé activement aux deux guerres. La première, mon grand-père avait été gravement blessé à Verdun. Et puis, pour la Deuxième Guerre mondiale, il avait participé au marquis de Senlis et il fait partie des rares survivants de ce marquis de Senlis dans la Haute-Garonne. Et bien sûr, la figure de Maurice Genevoix est une figure qu'il connaissait bien et qui était quand même emblématique de cette génération. Alors, il se trouve qu'il y a un éditeur qui est la Table Ronde, un éditeur très sympathique pour lequel vraiment on peut saluer le travail, et qui vient de publier dans une édition de poche, c'est-à-dire une édition très accessible, 8,90 € le volume, il vient de republier 30 000 jours de Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, je vous le rappelle, était né en 1890, il est mort en 1980, il sort de l'école normale supérieure pour entrer immédiatement dans la guerre. Ces générations qui sortent des études pour aller se plonger dans la fournaise de la guerre en août 1914. Et il passe des mois très durs dans les secteurs les plus meurtriers du front. Alors, ce fut un grand blessé comme mon grand-père, hein. Et Maurice Genevoix a décrit cette vie, ces épreuves qu'il a vécues de cette guerre, dans un livre qui est un livre absolument emblématique de cette période, un livre qu'il faut que les générations actuelles lisent, ceux de 14, c'est le titre de ce livre. Et ceux de 14 va le révéler au public, au grand public. Il a évidemment une carrière littéraire plus que brillante, puisqu'il a été secrétaire perpétuel donc de l'Académie française, un poste excessivement prestigieux. Il est l'auteur de plus de 50 livres, parmi lesquels on peut citer Rabolio, paru en 1925, qui n'a pas pris une ride, hein, et qui exalte la vie libre d'un braconnier de Sologne, et avec lequel il a obtenu le prix Goncourt, donc en 1925. Et puis, le 11 novembre 2019, Maurice Genevoix a fait son entrée au Panthéon. C'est donc sous le quinquennat de M. Macron que Maurice Genevoix est entré au Panthéon. Donc il a attendu quand même assez longtemps. Et voilà ce que l'on peut dire brièvement donc de Maurice Genevoix. À signaler que vous pouvez vous procurer dans cette collection de poche qui ne prendra pas beaucoup de volume dans votre bibliothèque et qui est très agréable à lire. Vous allez pouvoir trouver également roue, R, 2 R, O, U, accent circonflexe, hein, et La mort de Pré, voilà, que je vous invite à lire. Et puis, également, 30 000 jours, donc là, c'est le texte de Maurice Genevoix lui-même. Pas si j'ai le temps de lire peut-être un extrait. Mais la même collection de la table ronde, collection donc de la petite Vermillon de la table ronde, livre de poche, publie également un livre de Michel Bernard, qui s'appelle Pour Genevoix. Alors voici ce que dit Michel Bernard. À 34 ans, j'ai éprouvé de nouveau l'empoignade d'une lecture d'enfance. Elle a duré 2 nuits. Je relisais bouleversé ceux de 14. M'apprêtant à écrire sur les paysages du Barrois et de la Vèvre, j'avais pensé recevoir d'une nouvelle lecture de Genevoix la bénéfique influence. Sa réputation de paysagiste était solide, et l'on disait qu'il n'était pas seulement le meilleur peintre de la Loire, mais aussi de la nature meusienne. Je pense maintenant que la cause était beaucoup plus profonde. Maurice Genevoix. Donc, Michel Bernard. Qui est Michel Bernard? Eh bien, c'est un écrivain qui a publié, toujours à la table ronde, La maison du docteur Laërte, qui a eu justement, en 2009, le prix Maurice Genevoix. Et puis Le corps de la France, en 2010, et Le bon cœur, en 2018, qui a eu le prix France Télévisions, le prix littéraire de la ville d'Arcachon, le prix Michel Dard, le prix du roman historique des rendez-vous de l'histoire de Blois. Alors, pour Genevoix, dans le livre dont je vous parle, Michel Bernard a reçu en 2013 le prix Grand Témoin de la France Mutualiste et le prix littéraire lorrain Georges Sadler de l'Académie de Stanislas. Dans la même collection, Vermillon, donc de la table ronde, on peut lire Mes Tours de France, qui est paru en 2014, Les Forêts de Ravel en 2016, Deux remords de Claude Monet en 2018 et La tranchée de Calonne en 2018 également. Voilà, alors, c'est donc une réédition, ce livre, réédition en poche, et il vous coûtera 7,30 €, hein, très abordable, très bien présenté, une très belle couverture. On voit Maurice Genevoix, splendide, dans cette collection de la petite Vermillon, donc on ne saurait véritablement jamais assez recommandé. Chant d'amour à la littérature, à une certaine idée de la littérature, pour Genevoix, dit Christian Autier dans Le Figaro. Pour Genevoix revient sur l'épreuve fondatrice de la guerre que le sous-lieutenant des Éparges, c'est dans Maurice Genevoix, vécut dans sa chair et dans son âme. Et puis Jérôme Garcin, dans Le Nouvel Observateur, a écrit sur ce livre, à ce conteur qu'on a mal lu, qu'on ne lit plus beaucoup, Michel Bernard rend un vibrant et légitime hommage. Donc cet hommage, nous avons tenu à le relayer également ici, dans cette émission Les Poètes de Radio Occitanie. Je vais lire un petit extrait de Michel Bernard pour Genevoix. Près de Bar-le-Duc. Dans les années 70, on voyait fréquemment Maurice Genevoix à la télévision. La télévision, elle appartenait encore à l'État, et le gouvernement y imposait en soirée des émissions culturelles décidées dans les bureaux des ministères. La plupart des Français les regardaient parce qu'ils n'avaient guère le choix et que des images qui bougent pour des gens las de la journée valent mieux que rien. L'émission terminée, ils étaient surpris de ne pas avoir vu le temps passer en compagnie de ce vieux monsieur élégant qui plaisantait avec malice et bienveillance et causait juste. Ils étaient contents de se connaître du même pays et de la même langue que lui. Dans leur logement de béton, sans feu, glacé par le halo bleu de l'écran, l'académicien leur avait parlé avec des mots précis, sensuels et tendres, des animaux, de la campagne, des bois, de la Loire, de la guerre qu'il avait faite, et des amis qu'il y avait perdus. Mon père l'admirait pour toutes ces raisons, et moi j'étais étonné que l'écrivain des exemples grammaticaux et des dictées fût cet homme vif et chaleureux, plein d'esprit, qui un jour avait été harnaché, comme les soldats de mon livre d'histoire. Au lendemain d'une de ces émissions, mon père était rentré à la maison avec un gros livre à jaquette blanche qu'il venait d'acheter. Formé sur la reliure cartonnée comme une chose précieuse, sa couverture illustrée d'un casque de poilu brisé en 4 fragments est restée aussi propre, immaculée, qu'elle m'était apparue la première fois que je lus ces mots, maintenant si présents en moi, Maurice Genevoix, ceux de 14. Un des amis de mon père était passé à la maison ce jour-là. Je les revois dans le couloir, mon père lui montrant le livre. C'est incroyable. On se rend compte, en lisant ce bouquin, que la guerre de 14 était encore plus près de chez nous qu'on le croyait. Les combats que raconte Maurice Genevoix ont eu lieu juste derrière, après la Nationale et le Bois, dans les villages du coin, à 10, 12 kilomètres d'ici à peine. Tout y est, les noms, les lieux, les routes, tout. Faut absolument avoir lu ça quand on est d'ici. Ensuite, quand on passe par là, on y pense. Nous habitions dans la Meuse, un village proche de Bar-le-Duc, du côté de Révigny, sur le bord du plateau barois coupé par la vallée de l'Ornain. Dès que j'ai pu, j'ai tourné les pages de « Ceux de 14 » au hasard des mots. Quand je tombais sur un nom de ville, village, ferme ou rivière que je connaissais, je lisais le récit de l'événement qui lui était attaché. Ce fut un grand saisissement de voir tout à coup, près de chez moi, sur les horizons familiers, se lever, courir et tomber des silhouettes étranges, monter des fumées, brûler les meules de foin et le clocher de l'église de Rambercourt au Pau. Le paysage de mon enfance était le lieu d'une tragédie que m'ont raconté avec des couleurs et un mouvement inouï le gros livre sorti de la bibliothèque paternelle. Jamais je n'avais été si près de ce que je lisais. Le ciel des livres était comme le ciel de la terre et le ciel de la guerre, le même, exactement le même, bleu pâle et fréquenté des nuages que celui tendu par-dessus les champs et les bois derrière la maison. Voilà un extrait de Michel Bernard pour Genevoix, donc, que vous pouvez lire maintenant dans une collection de poches, la table ronde de la collection La Petite Vermillon, 7,30 euros. Et bien sûr, Maurice Genevoix, pour ceux qui n'auraient pas le livre chez eux, ils peuvent se le procurer, toujours dans cette collection très commode, très bien présentée, parfaitement maniable, qui ne prend pas trop de place dans la bibliothèque, même pas de place du tout, par rapport au livre, comment dirais-je, plus grand. Donc, Maurice Genevoix, 30 000 jours, toujours à la table ronde, 8,90 euros. Voilà, je voulais absolument parler de cela. Mais aussi, et là, je reviendrai là-dessus, je voudrais signaler, et ce ne sera qu'un signalement, je reviendrai un peu plus longuement sur ce livre. Je vais parler d'un autre éditeur, qui est un éditeur qu'il faut saluer aussi pour la pertinence de ses publications, son travail, c'est Le Passeur Éditeur. Alors Le Passeur Éditeur, je vous invite à aller voir le site pour voir ses dernières publications. Et parmi ces dernières publications, je voudrais vous parler de deux livres. Aujourd'hui, je vais me contenter de vous parler du livre. Alors, qui sort également dans une collection poche. Je crois que c'est important aussi de dire que vraiment tous ces livres sont à la portée des bourses modestes. Et que, également, ça ne prend pas trop de place, puisque c'est un livre de poche, pas trop de place dans vos bibliothèques. Alors, il s'agit du livre de Pascal Tonazzi, disais-je, « La grande histoire » de Notre-Dame dans la littérature. Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, il faut lire ce livre de Pascal Tonazzi, La grande histoire de Notre-Dame dans la littérature. Il y a effectivement ce mythe extraordinaire, ce mythe qui est terriblement rassembleur. Hein. On a vu l'émotion qu'a créée cet incendie de Notre-Dame de Paris, émotion qui est toujours aussi vive. Et il est bien que Pascal Tonazzi ait pu rassembler ainsi, depuis plus de 800 ans, que Notre-Dame de Paris fascine, captive, inspire, qu'il ait pu rassembler donc ce mythe dans la littérature. Alors pour tous, cette Notre-Dame de Paris, elle a toujours été plus qu'un monument, bien sûr, on l'a vu hein, récemment, malheureusement. L'émotion générale suscitée donc, lors de cet incendie de la Flèche qui a eu lieu en avril 2019 en fait foi. Partout dans le monde, Notre-Dame en flamme a créé un émoi profond. Alors Pascal Tonazzi, il a effectué des recherches approfondies et méticuleuses pendant 20 ans sur la cathédrale. Ce passionné raconte l'histoire de ce monument, défiant des siècles et les imaginations. Il montre comment Notre-Dame unit dans une même ferveur les chroniqueurs du Moyen-Âge et les écrivains français étrangers, comme Claudel par exemple. Vous savez qu'il y a l'endroit où Claudel, le pilier dans lequel Claudel a reçu l'illumination, il a vu là cette espèce de foudroiement mystique qu'il a reçu là sur ce pilier. Hein, après, il va pouvoir écrire sur Rimbaud. Claudel, Hugo, Sigmund Freud, Paul Verlaine, Rabelais, Proust et combien d'autres. Donc un voyage à travers les siècles, c'est ce livre avec les plus grands auteurs pour guide. L'histoire de ces pierres compte aussi donc l'histoire des hommes. Donc à lire vraiment, je crois que il fallait faire ce travail. C'est un travail un peu ingrat d'aller retrouver tout ça, de pouvoir faire cette compilation, etc. Bon, on a la chance d'avoir un écrivain qui s'en soit chargé et qui nous l'offre ainsi, avec un éditeur, Le Passeur, qui met le fruit de ce travail à portée de notre bourse pour 8,90 €. Alors, Pascal Tonazzi, il est musicien, il enseigne dans différents conservatoires en Ile-de-France et il mène également une carrière d'interprète. Il est passionné par la littérature, la peinture et l'architecture gothique et il est l'auteur de deux ouvrages sur Jean de La Fontaine. Donc, il fait concurrence à notre ami Yves Le Pestipon, qui est également toulousain, professeur normalien et qui est un des spécialistes aussi de Jean de La Fontaine. Il doit le connaître, Pascal Tonazzi. Donc Pascal Tonazzi, la grande histoire de Notre-Dame dans la littérature, dans cette collection de poches, Le Passeur éditeur en poche. Voilà, je ne peux pas vous lire d'extrait. Je veux simplement, donc oui, peut-être ceci peut-être. Hugo. Fut aussi une exceptionnelle description de Paris, vue du haut des tours. Ces belvédères où l'on peut regarder la ville fourmillant d'animation, de vie, d'humanité. Après avoir si habilement décrit Notre-Dame dans le premier chapitre du livre 3, dans le deuxième, l'auteur, comme le spécifie clairement le nom du chapitre, dépeint Paris à vol d'oiseau. C'est le nom du chapitre. Un extrait donc de ce chapitre, Paris à vol d'oiseau, de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Nous venons d'essayer de réparer pour le lecteur cette admirable église de Notre-Dame de Paris. Nous avons indiqué sommairement la plupart des beautés qu'elle avait au XVIe siècle et qui lui manquent aujourd'hui. Mais nous avons omis la principale. C'est la vue de Paris qu'on découvrait alors du haut de ses tours. C'était en effet quand, après avoir tâtonné longtemps dans la ténébreuse spirale qui perce perpendiculairement l'épaisse muraille des clochers, on débouchait enfin brusquement sur l'une des deux hautes plateformes inondées de jour et d'air. C'était un beau tableau que celui qui se déroulait à la fois de toutes parts sous vos yeux. Pour le spectateur qui arrivait essoufflé sur ce fait, c'est d'abord un éblouissement de toit, de cheminée, de rue, de pont, de place, de clocher. Devant Notre-Dame, au plus près, trois rues se dégorgeaient dans le parvis, belle place à vieille maison. Voilà, c'est du Victor Hugo. Et c'est d'une époque où, bien sûr, on ne pouvait pas voir Paris autrement que du haut des plus hauts toits de Paris, c'est-à-dire, bon, là, c'était Notre-Dame. Maintenant, nous avons les vues aériennes, nous avons des drones, nous savons quelle est la beauté de Paris vue du ciel, mais à l'époque de Victor Hugo, effectivement, il fallait monter dans les tours de Notre-Dame. Voilà. Pascal Tonazzi, la grande histoire de Notre-Dame dans la littérature, le passeur éditeur en collection poche, 8,90 €. Et puis, je vais vous dire que j'ai été absolument bouleversé, le mot n'est pas trop fort, par l'extraordinaire roman de Cécile Coulon, Une bête au paradis, paru à l'Iconoclaste, édition de l'Iconoclaste, un livre qui vous coûtera 18 €. Alors, Cécile Coulon, je la connais parce que Jean-Pierre Siméon nous avait dit, d'ailleurs dans cette émission, je me souviens, que elle avait eu le prix Guillaume Apollinaire. Et il ajoutait, c'est une jeune dame de 28 ans qui a eu le prix Guillaume Apollinaire. Bien. Évidemment, je me suis précipité sur l'œuvre de Cécile Coulon. Je dis bien l'œuvre parce que elle est née en 1990, elle est née en Auvergne en 1990. Alors, évidemment, c'est la même ville que Jean-Pierre Siméon, hein, à Clermont-Ferrand. Et ville qu'elle habite, hein, et qu'elle habite encore aujourd'hui. Elle a commis de nombreux romans aux éditions Viviane Ami, dont Le roi n'a pas sommeil, qui a eu le prix France Culture, Nouvel Observateur, et Trois saisons d'orage, qui a eu le prix des libraires. Et alors, ce livre extraordinaire, Une bête au paradis, que j'ai lu vraiment, j'ai dévoré ce livre, je l'ai dévoré, avec cette... comment dirais-je, cet étonnement qui ne m'a pas quitté du début à la fin, de me dire comment on peut être né en 1990 et pouvoir avoir une telle maturité, non seulement de style, bon, c'est encore, mais quand même d'expérience, parce que pour écrire un roman comme ça, il faut avoir vécu pas mal de choses, il faut avoir quand même une expérience intime, importante. Et j'avoue que ce livre, Une bête au paradis, m'a totalement intrigué parce que je me suis dit comment elle peut connaître le milieu dont elle parle, qui est le milieu campagnard, le milieu de gens de ferme, etc. Comment elle peut avoir cette connaissance parfaite, intime, et comment elle peut également avoir ce sens de la psychologie aussi pertinent. Voilà. J'avoue que ça m'a stupéfait. Ça m'a stupéfait et je ne peux que recommander, bien entendu, la lecture de ce roman qui se lit, vraiment Une bête au paradis, qui se lit d'entrée, parce qu'il y a en plus une intrigue dont je ne vous dévoilerai pas, bien entendu, une intrigue et une espèce de bonheur de lecture qui est dû justement à cette richesse des sentiments humains, de la profondeur des sentiments humains, des comportements humains, mais également à une fluidité de la langue, une pertinence des mots, de l'écriture qui est tout à fait sidérante. Alors, de quoi s'agit-il dans Une bête au paradis ? La vie d'Émilienne, c'est un personnage central, de ce roman, dans la vie d'Émilienne, c'est le paradis. Alors le paradis, c'est le nom de cette ferme isolée au bout d'un chemin sinueux. C'est là qu'elle élève seule, avec pour unique ressource son courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent, jusqu'à ce que l'adolescence arrive, et avec elle, le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur couple se forge. Mais la passion que Blanche voue au paradis la domine tout entière quand Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en ville, réussir. Alors, leur monde se déchire et vient la vengeance. Une bête au paradis est le roman d'une lignée de femmes possédées par leur terre, un huis clos fiévreux, hanté par la folie, le désir et la liberté, nous dit la quatrième de couverture de ce roman. Alors, si vous avez bien écouté, on retrouve un peu les thèmes classiques de l'ambition. On voit là du Stendhal, etc. Elle a remis tout ça dans une écriture contemporaine, une écriture percutante, terriblement dynamique, envoûtante, mais où il y a effectivement cette trame qui en fera certainement un des grands livres. Et je m'étonne d'ailleurs que ce livre, enfin, l'année n'est pas finie, mais ce livre valait vraiment un grand prix. Je m'étonne donc de cette habileté qui fait qu'on va retrouver en définitive les archétypes du livre classique, donc l'ambition, les milieux qui vont s'opposer, cet Alexandre, lui, qui est dévoré par une ambition, mais une ambition tout à fait contemporaine, c'est-à-dire, bon, malgré tout, qui est une ambition, il va avoir une ambition d'un agent immobilier qui veut acquérir des terres, etc., qui est tout à fait dans le réalisme de maintenant, dans cette espèce d'ambition un petit peu mesquine, malgré tout, hein, que l'on voit dans la vie courante, qui est banale, que l'on voit chez bien des gens. Et en même temps, alors, cette espèce de passion de ces femmes, la Émilienne, dont la grand-mère et la petite fille, toutes les deux, rivées à cette terre avec cette passion d'une terre qui, en même temps, les épuise, ne les nourrit pas matériellement vraiment, mais les remplit quand même de cette espèce de fascination devant cette nature, devant aussi le fait de posséder, être de là et être possessif sur cette terre. Alors, en tout cas, il y a là aussi une intrigue, hein. Une intrigue qui se dénoue juste vraiment au dernier moment, qui est vraiment menée. Il y a là donc une virtuosité de romancier qui est tout à fait étonnante, effectivement. Je crois quand même que Cécile Coulon, c'est vraiment, en quelques années, donc, elle a fait cette ascension fulgurante. Et elle a publié 6 romans, donc, vous disais-je, donc 3 saisons d'orage, qui a été récompensé par le prix des libraires et ce recueil de poèmes, Les Ronces, dont parlait Jean-Pierre Siméon, et qui a eu le prix Apollinaire. Voilà. Donc, Cécile Coulon, Une bête au paradis, un roman à lire d'entrée, aux éditions L'Iconoclaste. Le livre vous coûtera 18 euros. Et puis, je vais sans tarder vous lire ce livre qui est apparu au Castor Astral, le Castor Astral, et qui s'appelle Les Ronces de Cécile Coulon, et qui lui a valu donc le prix Guillaume Apollinaire. Alors cette poésie, je veux dire que j'y adhère totalement parce que on n'est plus dans la poésie minimaliste, la poésie maniérée, etc. Bon, qui est certainement une très grande poésie aussi. Mais on est là dans une poésie lyrique, où on adhère de plein pied. qui est, comment dirais-je, souvent un petit peu, qui peut être aussi assez prosaïque sans que le mot détériore le côté poésie de l'œuvre. En tout cas, effectivement, ça fait plaisir de lire une poésie comme ça, qui est une poésie lyrique, abondante, avec des longs poèmes qui racontent des histoires et dans lesquels on adhère, en ayant cette impression merveilleuse quand même de la poésie qui nous entraîne au rêve, à l'imagination, qui nous entraîne un peu en dehors de nous-mêmes et en même temps qui est totalement intrinsèquement lié à ce que l'on a vécu souvent et ce que l'on ressent. Voilà. J'aimerais vous offrir des frites. Ça commençait à cette heure si particulière du soir, où la fin d'un jour bouscule le début d'un autre. Je suis sorti sous la pluie. J'avais faim. L'orage déversait sa grêle chaude sur les volets battants. Personne ne marchait dans les rues, qui suintaient jusque sur la place en contrebas où la fontaine débordait. D'habitude, des chiens osseux se baignent dedans, mais là, pas d'aboiement, pas de sifflet. La nuit, la pluie, la chaleur. J'ai traversé. Un type m'a fait signe de l'autre côté. Les deux doigts sur la bouche entrouverte pour me demander si j'avais quelque chose à fumer. J'ai lancé une main ouverte, battante, comme les volets, pour lui signifier que non. J'ai continué, le visage enfoncé dans un pull trop long, les cheveux pleins de cette odeur d'une journée qui n'en finit pas. Devant l'enseigne, une jeune fille en jupe rose et un type avec une coupe de cheveux qui rappelait les meilleurs moments d'Agnès Varda, attendaient leur tour pour commander un kebab avec supplément fromage. La fille regardait l'écran plat fixé au mur qui diffuse des clips de pop américaine. Le gars attrapait une bouteille de soda derrière lui en se retournant avec souplesse. Quand ils ont payé, le patron m'a lancé. Pardon pour l'attente. Alors que je venais d'arriver, ça m'a fait sourire. Une barquette de frites avec du ketchup, ça marche. Vous pouvez attendre à l'intérieur. Alors j'ai attendu, debout, contre le réfrigérateur, devant les bacs de salade vide. C'est là qu'un homme, trempé jusqu'aux os, est arrivé. Je me suis poussé pour le laisser passer. Ses vêtements dégageaient un parfum de ciment et d'alcool bon marché. Ses cheveux ras, gris, retenaient l'eau comme la surface des champs à 4 heures du matin. Il a commandé. Au moment où j'allais payer mes frites, il m'a fixé, avait des yeux plus ronds que des becs de flamant rose, la bouche molle des hommes fatigués qui boivent un peu trop et qui assument. Il m'a regardé longtemps et bégayé. Je ne sais pas quoi vous dire. Au début, j'ai cru qu'il se fichait de moi. Mais quand même, ses yeux, ses yeux. Comment ça? Il a inspiré un grand coup, comme si chaque mot lui arrachait la moitié d'un poumon. Je ne sais pas quoi vous dire, mademoiselle. Le type derrière le comptoir écoutait d'une oreille en remplissant les bacs de frites industrielles. Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit, j'ai répondu en secouant mon pull. Je ne sais pas quoi vous dire parce que je sais qui vous êtes. La pluie faisait des sillons légèrement irisés en tombant de son crâne sur l'arête du nez. Je ne savais pas quoi dire non plus. Minuit n'était pas loin. Je venais chercher de quoi tenir jusqu'au matin, et ce type, parfaitement ivre et sain d'esprit, semblait sur le point de s'effondrer. Je sais qui vous êtes. Vous écrivez des livres. Comment vous faites? Comme je peux. Il s'est donné une tape sur les genoux et puis, d'un seul coup, des larmes, de la sueur, de la pluie qui vient de l'intérieur, quelque chose d'humide et de sincère a voilé son regard déjà noyé de solitude et de nuit bizarre. Il s'est tourné vers le type qui dépliait des barquettes d'orange avec une précision de chirurgien-dentiste. Je peux vous dire que je ne me suis pas mouillé pour rien ce soir. Ah ça non. Dans mon dos, le réfrigérateur ronronnait. Un léger sourire s'est installé naturellement entre mes fossettes. Sur le comptoir, mes frites étaient prêtes, bien empaquetées. J'ai sorti une pièce de 2 euros et l'homme, tout mouillé, m'a dit « J'aimerais vous offrir des frites, si ça ne vous dérange pas. » J'ai soupiré et laissé ma pièce entre lui et moi. Puis j'ai tendu la main. Il l'a serrée. « Merci, monsieur. » Et je suis sorti, mon baluchon de frites au poignet. Sur le chemin du retour, l'odeur caractéristique d'huile de friture envahit mes narines, mes cheveux et mes vêtements. Je ne reverrai probablement jamais cet homme. En tout cas, pas comme cela. Depuis hier, je veux écrire sur lui, parce que je me demande qui de nous deux, dans quelques mois, dans quelques années, sera trahi par l'image qu'il s'est construite du monde extérieur. Sera-t-on encore quelques-uns à se serrer la main à cette heure-ci du soir pour une barquette de frites tièdes et un coca sans glace? Je voudrais que la poésie soit aussi naturelle à ceux qui m'entourent que l'émotion qui jaillissait cette nuit-là devant cette place, avec cette facilité improbable des moments qui n'auraient pas dû être, qui furent tout de même mal fichus, débordant de grâce et de paroles impossibles. Cécile Coulon, Les Ronces. Vous voyez, ça peut être ça la poésie aussi. Ça peut être ça, et ça, cette poésie d'une grande oralité, d'une grande émotion, et qui provient aussi d'une expérience humaine. L'expérience humaine, à mon avis, est quand même à la base. Bien sûr, il y a le travail de la langue, mais qu'est-ce que le travail de la langue s'il n'y a pas l'expérience humaine? Pour finir, je vais essayer de trouver un texte. Voilà, tout va bien. Tout va bien. La première fois que quelqu'un a posé ses mains sur moi, d'une manière tout à fait différente de celle dont, jusqu'à ce jour, j'avais l'habitude. Une manière tout à fait différente et à la fois chargée d'images, de promesses et de responsabilités que je n'étais pas encore en mesure de comprendre. La première fois que quelqu'un a posé ses mains sur moi, ce geste fut accompagné de quelques mots simples. Tout va bien, et tout ira bien. Après cela, j'ai répété à mon tour ces paroles douces en d'autres occasions, mais toujours, toujours, la même façon de tendre la voix dans une gorge serrée, toujours, toujours, les yeux clairs qui fouillent d'autres yeux clairs pour qu'ils ne les oublient pas. Tout va bien et tout ira bien, pour certaines, pour certains. Cette phrase apparaît comme un moyen facile et rapide de mettre fin à ce genre de scrupules qui précède généralement un baiser long, profond, une chemise qu'on retire, un sein qu'on frôle, mais pourtant, j'ai pas dit cela pour gagner. Je n'ai pas dit cela pour vaincre, et je ne dirai jamais cela pour mentir à quelqu'un que j'aime et qui a peur. Mais qu'est-ce qu'aimer? Sinon, montrer les dégâts causés par sa propre terreur, qu'est-ce aimer? Sinon, répéter sincèrement, comme un moine, devant la statue d'une vierge aux paupières closes, tout va bien et tout ira bien. Dans les pires moments et les fins d'après-midi chaudes, dans les aubes que les chagrins voraces ont salis, aux rives de lacs gelés comme au bas d'immeubles gris, mille fois, j'ai pensé à cette première fois, à la façon dont les mains, les yeux, la bouche se joignent en un cortège bancal, et lorsqu'il m'arrive de croire que tout espoir fut porté en vain, je repense à ces mots, à la vie qui recommence, dans chacune de leurs syllabes, tout va bien et tout ira bien. Voilà, nous sommes rattrapés par le temps, mais tout va bien et tout ira bien à Radio Occitanie. Et pour la poésie, à lire absolument Cécile Coulon, Les Ronces, c'est au Castor Astral. Voilà, Cécile Coulon. Donc nous en reparlerons et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Elle est très jeune, donc nous avons certainement une œuvre en marche qui n'a pas fini de nous ravir. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine, à 17h.